Soleil d'un jour sur Radio Lac, c'est tous les dimanches entre 11h et midi avec Maurice FT. Maurice, bonjour.
Frédéric, bonjour. Le vent souffle, il y a toujours des pins, nous sommes toujours dans les Chapas et je viens de voir passer une famille de chamoulas chargés de bois.
Nous étions à Chamoula dimanche dernier, nous le restons aujourd'hui encore. On avait fait la connaissance des vieillards, hein, c'était donc les sages.
Les fameux molles. Mm-hmm. En l'occurrence, non seulement ils étaient sages, mais ils avaient cette façon étrange qui vous a interrogé un peu, Frédéric. C'est-à-dire cette façon d'être à la fois calme, pesant leurs mots. Et moi-même, je crois qu'au cours de l'heure, j'avais changé petit à petit. Mes gestes étaient devenus plus lents. J'avais cette sagesse qui faisait qu'à partir de 50 et quelques années, mm-hmm. on s'est chargé d'énergie. Vous vous rappelez de cette façon de se charger étrangement d'énergie, presque sur le dos des autres, sur le dos de la nature, et finalement de se remplir ainsi de pouvoir, et puis d'avoir cette faculté étrange d'aller visiter non seulement les autres, c'est-à-dire les doubles de tous les animaux qui existent dans cette montagne étrange. On avait pénétré dans la grotte, on avait même vu cette étrange croix également, mmh. où il y avait des véritables jugements au sommet d'une montagne. Et ce qui est curieux, c'est que quand on voit l'évolution de ces ancêtres, de ces vieillards dans le cours de l'histoire indienne de Chamoula, là nous sommes en plein cœur du Mexique, en plein cœur des Chiapas, eh bien c'est que ces gens-là finalement ont fini par se rendre compte, ou la population elle-même s'est rendue compte, qu'ils exerçaient une sorte de pouvoir disciplinaire au sein de la société, et que ce pouvoir, c'était quelque chose qui était un peu insécurisant finalement. C'est assez dangereux de savoir que quelqu'un sait tout et qu'il peut vous visiter intérieurement en allant voir votre double. Mmh. Et ce monde magique devient de plus en plus étrange. Et bien sûr que ces gens-là, non seulement vont conserver la tradition communautaire, mais ils vont permettre d'avoir un véritable code moral. C'est un peu les policiers du coin. Les policiers mentaux, c'est un petit peu comme la religion qui, tout à coup, crée une sorte de chape de plomb sur une société. Et ils vont naturellement pouvoir visiter ces fameux, on a utilisé un tas de termes assez curieux, les Bayorel, et finalement, ils vont pouvoir punir les doubles animaux, il y aura tous ces jugements. Alors, quand quelqu'un tombe malade, pour obtenir sa guérison, il doit rectifier systématiquement son attitude, sa façon de vivre, pour... il faut d'abord... payer véritablement une amende, un peu comme on le ferait pour sa bonne conduite.
C'est-à-dire que c'est pas normal de tomber malade.
Non, vous allez voir aujourd'hui qu'on va rentrer dans le monde magique, on va essayer d'étudier un peu la sorcellerie, des choses qui au deuxième degré vont prendre le pouvoir de ces différentes tribus, et en particulier à Chamoula. C'est-à-dire que les vieux vont perdre leur pouvoir et les sorciers vont les remplacer. C'est un peu le thème du jour. Mais en l'occurrence, ce qui est impressionnant, c'est que tout événement qui se produit dans votre existence, lorsqu'il est négatif, je pense à la maladie, je pense à la mort, rien n'est gratuit. Il y a toujours...
Dans la maladie, c'est pas négatif. En général, c'est...
Ah, c'est négatif parce que...
Ça sert à éliminer certaines choses.
Si vous le voulez, parce que vous le prenez de façon occidentale et avec votre vision médicale. Mais pour un Indien, c'est obligatoirement une faute sociale ou quelque chose qu'il a commis dans le courant de sa vie, ou éventuellement, on va le voir tout à l'heure, des sorts qu'on pourrait lui jeter. Alors cette omniprésence de la maladie, je dirais que c'est conçu comme un châtiment qui peut très bien avoir été infligé par les vieillards sur un niveau très étrange. Là, je parle carrément de métaphysique. Hein. On est dans la tête, on est dans l'esprit, on est dans ce curieux monde parallèle. Et c'est une force dont l'action va contribuer véritablement à une sorte de statu quo. Alors là, on comprend mieux pourquoi les communautés indigènes ont quelque chose d'assez bloqué. Alors progressivement, les molles vont cesser d'être...
C'est vrai qu'on s'est aperçu qu'ils étaient très, très structurés.
Complètement. Tout est structuré. On a parlé de l'horreur du vide, de ce cerveau complètement plein de visions et je dirais presque d'horreur, parce qu'il y a un côté terrifiant comme ça dans la vie de chaque jour. Alors, si je parle des vieux, c'est que finalement, on va se dire que ce ne sont peut-être pas seulement des protecteurs ou des gens qui permettent une sorte d'intégration sociale, mais qu'en vieillissant, ils vont devenir un peu suspects parce que je dirais même qu'ils sont antisociaux, parce que lorsque vous vieillissez, petit à petit, vous piquez, vous prenez cette fraction individuelle du cal dont on avait parlé, cette espèce d'esprit curieux, cette force d'énergie, cette essence vitale qui existe dans la nature en fait en quantité extrêmement limitée, et l'accroissement de cette fraction individuelle que chacun peut prendre, eh bien finalement ce cal, on ne peut le faire qu'au détriment d'autrui. Alors là, ça commence à être un petit peu vicieux, parce que finalement, quelqu'un qui vieillit trop longtemps, si je peux dire, qui vit trop longtemps, n'a fait que prendre aux autres. Alors, ils mettent en péril le jeune, l'enfant, l'adolescent, l'adulte en pleine force. Et si tout à coup, quelque chose se grippe, eh bien, c'est que le vieux aura sucé aura carrément pompé le calme, l'énergie à tout son entourage. Et alors je peux dire que le fait de survivre, finalement, ça prive d'essence vitale tous les membres jeunes, les plus faibles aussi de la communauté. J'évoquais les enfants, mais on peut parler des femmes aussi qui sont un peu plus faibles physiquement. Je ne fais pas de différence avec l'homme, mais enfin dans la société indienne, on le voit. Et vieillir, c'est un peu comme si vous confisquiez la vie à votre profit personnel. C'est un peu comme un bien que vous accumulez. Et en résumé, pour un Indien, c'est un peu comme si vous tuez. Alors là, on a un aspect extrêmement fort, c'est l'idée de l'assassinat involontaire ou volontaire de la part de ces vieillards. Alors, ces vieillards, la conclusion, c'est que finalement, on va trouver d'autres solutions. C'est-à-dire manipuler ces forces occultes à leur propre bénéfice, c'est dangereux. Mais c'est aussi aux dépens du groupe. Alors, petit à petit, lorsqu'il y avait, une épidémie, lorsqu'il y avait des sécheresses, lorsqu'il y avait des famines, eh bien, tout cela va être conçu comme étant une action possible des vieillards. Et en l'occurrence, on va créer... Bon, si un vieillard est assez jaloux, qu'il a cette envie d'avoir... Ou même de la haine vis-à-vis d'autrui.
Une vengeance.
Immédiatement, on va trouver une solution. Et on a eu dans les grandes communautés indiennes, ça c'est pas seulement valable pour Chamula, ça c'est très mexicain, c'est très maya en l'occurrence, on a eu des assassinats collectifs de vieillards. Ça, c'est une époque, elle est révolue, attention. Mais il n'empêche que, je vous donne un cas. Par exemple, au 19e siècle, on avait encore dans toutes ces communautés indiennes, là je pense à Oshuk, qui est un village voisin de Chamula, on avait des catinables. Les catinables, on peut les appeler les aînés des aînés. Donc le plus vieux que ça, on meurt. Et en l'occurrence, ces gens-là avaient la charge, ils s'occupaient des saints, par exemple, de l'église, ils s'occupaient de toutes les cérémonies agraires, il y en a toute l'année, bien sûr, pour des raisons tout à fait compréhensibles, lorsque les saisons tournent comme sur ces hauts plateaux à 2000 mètres, on attend la pluie, on a peur du soleil, et il y avait le contrôle de tout le culte, de toutes ces divinités protectrices, et puis il y avait aussi cette façon de surveiller les troupeaux, de s'occuper des récoltes, enfin ça c'était des charges qui étaient donc données à ces aînés des aînés. Et finalement, on a senti que ce rôle était véritablement dangereux. C'est-à-dire que là, je vous parle des années 1900, 1920, au début de notre siècle. Je peux vous dire que dans ce village d'Oshuk, il n'y a pas eu en 20 ans un seul aîné des aînés qui soit mort de manière naturelle. Ça veut dire qu'à un moment donné, on les a assassinés et leur pouvoir ne durait que quelques mois, peut-être même parfois par hasard quelques années, mais leur exercice du pouvoir était extrêmement rétréci. Alors comment est-ce que vous réagissez comme vieillard? Tout à coup, plus personne dans les vieillards accepte cette charge et les catinables ont complètement disparu puisque chaque fois, ils y laissaient leur vie. Alors ils ont abdiqué, je dirais, une partie de leurs anciennes autorités et finalement, cette époque où ils avaient des privilèges absolument incroyables, aujourd'hui, curieusement, quand on discute avec un Indien, lorsqu'on est assis sur un banc là devant une hutte et que vous avez un vieillard qui vous parle de cette époque du début du siècle, on dit oui, je me rappelle très bien. C'était l'âge d'or où nous avions tous les pouvoirs, où nous étions les plus forts, où nous pouvions intervenir par l'esprit, voyager, aller s'occuper des autres, tiens, en visitant un animal dans la montagne, en changeant le cours de la vie des autres, des vivants, de ceux qui étaient plus faibles que vous. Vous étiez le puissant, vous aviez toutes les forces de la nature en vous.
Take me as I am, take my life. know it's true. Everything I do.
Bien, passons aux choses sérieuses. On va parler de... Oui.
Frédéric, j'ai regardé votre attitude sur votre siège. Ouais. On aurait dit que vous aviez pris le fameux pouvoir géantocratique.
Ouais, tout à
c'est
fait.
Un beau mot, géantocratique.
Oui, c'est beau. C'est vrai.
Oui, la géantocratie, bah, c'est fini maintenant, chez les Chamoula.
Voilà. Donc ça, c'est l'ancien système. Maintenant, on passe à la sorcellerie.
On peut carrément faire le saut dans la sorcellerie parce que à Chamoula ou à Matenango, à Chamoula, bon, c'est ce village étrange avec une centaine de milliers d'habitants, une seule église dans le centre, on en parle déjà depuis quelques heures, mais à Matenango, c'est un village de potiers assez fermé, assez structuré, qui se trouve déjà dans les terres un peu plus tropicales. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a plus que dans ces communautés, je dirais qu'il n'y a plus que des guérisseurs et des sorciers qui remplissent cette fonction qui autrefois...
Ah, donc, de la sorcellerie, mais dans le bon sens.
Attention, on va voir les deux. Hein. C'est-à-dire, quand je dis guérisseur, quand je dis sorcier, le guérisseur est bon, le sorcier peut être mauvais, ça on va le voir. C'est-à-dire que tout ce qui est bon et qui est mauvais autour de vous peut être géré par ces gens-là. Alors, c'est une sorte de nouvelle pyramide de pouvoir qu'on est en train de réinventer, puis des gens qui vont prendre ce créneau qui est abandonné par les vieillards. Alors, le guérisseur, bon, on l'appelle Ilol, c'est un très beau nom. Bon, on ne parle pas maya tous les jours, mais enfin, en Tzotzil, Ilol vient du verbe Ilel, si j'ai bonne mémoire, qui veut dire voir. Regardez, hein, observez. Mais le voir, vous savez, le voir de Castaneda, c'est-à-dire ce voir intérieur, cette façon étrange d'observer les choses. Et le guérisseur, eh bien, je dirais qu'ils sont définis comme des voyants qui ont un regard qui pénètre toutes choses, mais surtout les fameuses montagnes qu'on a déjà évoquées, où se trouvent tous les pouvoirs, tous les doubles de chaque homme qui vit dans cette communauté, parce qu'on est toujours né avec un animal, on va mourir en même temps que cet animal. Mmh. Et ils arrivent donc à atteindre ces voyogels, c'est-à-dire ces animaux, sur le dos des habitants. C'est-à-dire que le sorcier, il est négatif, mais le guérisseur doit aussi aller modifier les choses de cette façon. Et quand je dis modifier, c'est en fait, bah, prenons les enfants par exemple. On va prendre un cas tout à fait sympathique. Les enfants naissent avec, avec une dentition nulle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dents dans la bouche d'un nourrisson, vous êtes bien d'accord. Moi, je ne sais pas, j'ai une fille qui est née par exemple avec le cordon ombilical autour de la gorge. Du coup, hein, eh bien, si elle était née à Chamoula, alors là, je vous assure, elle serait une des meilleures guérisseuses, ou en tout cas, elle se préparerait parce qu'elle n'a pas encore l'âge.
Le cordon ombilical autour du cou, ça aurait été vraiment un bon présage. Donc.
Totalement. Et alors, ce qui est certain, c'est qu'un bébé, et ça arrive de temps à autre, on le voit dans nos maternités, qui naît avec des dents déjà, ces petites dents de lait, bien, hein, les mamans le savent, hein, par rapport au sein, et une indienne, je vous assure, comme elle l'allaite pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, elle le sait aussi. Alors, ça c'est un bon exemple qui fait qu'on a déjà toutes les qualités requises pour être un guérisseur. Alors, obligatoirement, on vous met le tampon dès le départ, mais en général, les guérisseurs, ils commencent à exercer la médecine, naturellement, au moment de l'âge mûr. Et vous savez comment ça se passe? C'est assez curieux. On a tous eu des moments un peu troublants comme ça dans notre enfance. Rappelez-vous de vos premiers rêves. Et puis là, vous avez envie d'en parler à vos parents, vous en parlez à grand-maman en disant, tiens, j'ai rêvé une chose étrange. Et parce qu'il y a des images comme ça dans notre cerveau qui la nuit ressortent de façon différente. Et en fait, c'est en analysant les rêves des enfants ou des adolescents qu'on sait qu'on va recevoir une sorte d'enseignement. Je dirais même qu'on peut recevoir un enseignement technique et qu'on va apprendre la guérison et la façon de l'employer. C'est une véritable médecine qui se fait par songe et par apparence. Alors, bien sûr.
Donc, en fait, pour eux, le rêve, c'était la réalité.
Alors, je crois que c'est une phrase que je prononce très souvent lorsque je parle des Mayas ou des précolombiens, c'est « je rêve, donc je suis ». C'est vraiment la réalité absolue. Il n'y a pas de différence entre notre vie et cette vie-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a déjà parlé, vous rappelez, des chemins parallèles, des véhicules, comme je les appelle, la drogue, l'alcool, enfin tout ce qu'on utilise pour voyager, hein, pour aller voir ailleurs, pour aller de l'autre côté du miroir. Eh bien, un Ilol, c'est-à-dire un de ces guérisseurs, eh bien, il va prendre petit à petit sa réputation d'abord dans sa propre famille et finalement, ça va se répandre dans toute la communauté. C'est véritablement par la réussite qu'il va prendre sa place dans la société. Alors, quand vous êtes malade, qu'est-ce que vous faites? Sur place, chez nous, on appelle un médecin. Là-bas, je l'ai remarqué, ça m'arrive de donner des aspirines ou carrément des antibiotiques, mais je n'ai jamais pu soigner quelqu'un de façon occidentale, sans qu'en même temps on appelle l'ilol, c'est-à-dire le guérisseur. Alors lui, il va porter un diagnostic sur la maladie, le mal dont on souffre, il va essayer de le retrouver en étudiant d'abord, vous vous rappelez qu'on avait beaucoup étudié le sang, la façon d'imaginer ce qu'était le pouls, et bien il va naturellement étudier vos pulsations sanguines avec le...
Il a son interprétation
mal.
Hein.
Il s'occupe du poignet.
C'est pas médical du tout.
Non, il prend simplement le poignet, et lorsque le double animal est sain, lorsqu'il est par exemple à l'intérieur de sa montagne, l'homme qui est en bonne santé a un pouls qui est fort et qui est régulier. Donc son animal double est également en bonne santé, c'est logique. Mais en revanche, lorsque le double animal s'est égaré, ce qui peut arriver, il peut se tromper de chemin, il peut descendre de sa montagne ou sortir de sa grotte, ou lorsqu'il est blessé, ce qui arrive fréquemment aussi, je ne sais pas, on peut se blesser naturellement, mais on peut aussi être chassé ou Dieu sait quoi. L'homme est malade et son pouls est très très faible et irrégulier. Mais c'est aussi mathématique que ça, c'est-à-dire, moi je vous le raconte, vous me dites, tiens, on peut tous être malade et avoir un pouls irrégulier. Eh bien, chaque maladie se traduit par une pulsation particulière qui c'est vraiment l'hylole qui doit déterminer cette pulsation et faire une sorte de traduction. Alors, il va chercher à connaître non pas la maladie, comme vous l'avez appelé de façon occidentale, mais il va chercher l'action qui est coupable, ou plus exactement le coupable lui-même. C'est-à-dire, il sait que son patient a certainement commis quelque chose qu'il ne devait pas faire. Alors, on peut simplement poser la question, quand est-ce que vous avez eu une bagarre avec quelqu'un? Est-ce que vous avez été violent? Est-ce que vous êtes jaloux? Est-ce que vous êtes envieux? Est-ce que vous avez des ennemis? Et on va chercher ainsi toutes les circonstances. Vous allez voir, petit à petit, on va découvrir le pot aux roses.
Knock, knock, knocking on a heaven's door. I feel
tout à l'heure, on parlait du guérisseur et son interprétation de la maladie, hein, maladie entre guillemets. Est-ce que la notion du péché existe également ?
Alors pour la maladie, oui.
En fait, tout à l'heure, il demandait à son patient s'il était jaloux, si, etc., s'il avait fait de mauvaises choses.
Alors, Lilol, c'est-à-dire le guérisseur, va lui demander carrément d'avouer ses péchés. Mmh. Parce qu'à partir de ses péchés, c'est peut-être là qu'on va trouver l'origine de la maladie. Et quand je parle de péché, parce, il faut comprendre que pour retrouver la santé, pour la recouvrer véritablement, eh bien, il faut d'abord changer sa conduite. Et ça, c'est pas du tout notre idée à nous. Si vous toussez, ce qui est souvent le cas en hiver ou en été, on a d'autres maladies, mais obligatoirement, c'est parce que vous avez commis quelque chose juste avant. Et pour retrouver votre santé, il faudra se conformer d'abord à l'ordre social. Et là, on commence à rentrer dans un univers extrêmement sévère. Mais c'est aussi un ordre moral et c'est naturellement un ordre divin, je suis obligé de le dire. Alors, si je prends le cas des Tzotzil ou des Tzeltal, puisqu'on parle de ces deux grandes communautés mayas qui sont autour de San Cristobal de Las Casas, là-bas au Chiapas, en plein Mexique, enfin au sud du Mexique, près du Guatemala, eh bien, ils disent systématiquement, il y a une phrase type qui veut dire « on ne meurt pas de rien
».
Vous allez dire la même chose pour
c'est
nous.
C'est logique. Hein.
Mais pour eux, ils sous-entendent par là que la mort n'est jamais naturelle. Ça devient étrange.
Ça vient de très loin, en fait.
Ça
peut venir de...
C'est-à-dire que toute mort est en réalité un homicide, un assassinat.
Bien sûr.
Et Lilol, il fixe simplement à la date, par exemple, je vais prendre le cas d'une guérison, ça peut vous intéresser, parce que c'est fascinant de voir comment les médecins du coin fonctionnent, et c'est pas du tout notre système, et on comprend mieux aussi comment ces gens-là fonctionnent. Là, puisqu'ils ont ça dans leur tête et qu'ils trouvent ça naturel, je vais par exemple être un Lilol et je vais fixer le déroulement de la cérémonie de la guérison. Alors, il y a des cérémonies qui se poursuivent pendant plusieurs jours, et en l'occurrence, on peut même revenir plusieurs semaines sur les lieux de la maladie ou du malade, ou vit le malade, parce que il y aura des prières, il y aura des offrandes avec du copal. Vous savez, le copal, c'est cet encens qu'on fait brûler dans des encensoirs qui sont très beaux, d'ailleurs, à Chamula, avec comme des grandes coupes de terre rouge, avec des petits points, des petits pics comme ça sur le sommet. Il y en a 9, comme par hasard, c'est un chiffre bien maya. Et on aura des cierges, on va amener de l'argent, il y aura des libations avec naturellement beaucoup d'eau de vie. Et puis il y a des sacrifices, ça existe toujours aujourd'hui. Et les sacrifices sont les sacrifices de poules, parce que bon, c'est l'oiseau le plus pratique.
Il est dans la cour,
hein, il est arrivé avec les Espagnols, mais enfin la poule, c'est ce qu'on a sous la main. Et ces sacrifices sont absolument indispensables pour obtenir la guérison d'une personne dont le double animal a été capturé, ou dont le cal, vous vous rappelez de cette énergie, a été en fait volé, c'est-à-dire complètement dérobé. Alors ce qui m'intéresse dans le rôle de Lilol, c'est que lorsqu'il immole sa poule, il va offrir cet esprit aux divinités, pour que celles-ci, en échange, libèrent le double animal du malade et lui restituent éventuellement son tchoulel, c'est-à-dire l'âme, hein, cette chose assez étrange qu'on a tous en soi. Il y a quelque chose de déglingué dans votre architecture intérieure, donc presque l'architecture à la fois morale et spirituelle. Et en cas d'échec répété, et ça c'est beaucoup plus grave, c'est pour vous montrer à quel point l'idée de l'homicide va très loin, le guérisseur, souvent il préfère disparaître. Et non seulement il disparaît, mais on a eu des cas à Chamula lorsqu'il y avait une épidémie.
Par peur ou...
Ah, mais c'est terrible. Lorsqu'il y a une épidémie violente, lorsque les ressources de cette médecine traditionnelle restent ou demeurent impuissantes, eh bien, on voit très fréquemment des Ilols, des guérisseurs, qui se suicident ou carrément qui s'empoisonnent en buvant de l'alcool jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est vous montrer que le jeu n'est pas unique. Il a un double sens. L'Ilol est devenu Ilol, mais il est conscient à la fois de sa force et de ce qu'il doit obligatoirement fournir à sa société. Alors, je dirais qu'il y a des choses curieuses. Quand on voit fonctionner un Indien, on se rend compte que ces gens-là refusent d'acquérir des biens, comme nous on le ferait, hein. Ils refusent d'accumuler tout simplement la richesse, et ils ont surtout une peur énorme de devenir l'objet d'une agression, justement. Parce qu'à l'instant où vous accumulez des biens, il peut y avoir une agression qui serait métaphysique de la part de ceux qui sont, qui sont défavorisés dans la société. Donc si vous êtes jaloux de quelqu'un qui est riche, vous mettez le riche en danger. Mmh. Et par logique, le sorcier, alors attention, là je viens de changer de camp, hein, celui qui envoie la maladie, et non pas l'Ilol, qui est celui qui la supprime et qui trouve les moyens de la supprimer, le sorcier qu'on appelle le Tibal ou l'Ak-Kamel, rien que de prononcer le mot, ça fait frissonner un Indien. Ça, c'est vraiment envoyer la maladie. Il y a des maléfices qui existent, mais qui sont aussi claires que si je vous empoisonne avec de l'arsenic. C'est-à-dire que c'est sûr, ça marche. Mais vous allez voir que les méthodes sont curieuses, parce que on a par exemple le post-lum. Alors ça, c'est l'introduction d'un objet. Alors bon, un objet, il est toujours pathogène, il est en dehors de la norme, dans votre corps. Ça, c'est le corps étranger, carrément. Ça, c'est une méthode, elle marche très bien. Il y a le...
Attendez, j'ai pas compris. Hein.
C'est-à-dire qu'il suffit d'introduire dans votre corps quelque chose qui soit étranger. Alors, ça peut être en vous faisant avaler.
Donc, la personne qui vous envoie ce maléfice. Donc.
Oui, c'est le sorcier. Ça, il va tout faire pour que vous ayez quelque chose à l'intérieur de vous qui ne doit pas vous appartenir à l'intérieur. Vous me saisissez là. C'est vraiment une façon d'inclure un maléfice à l'intérieur du corps. Alors, ça, c'est une méthode assez facile puisqu'il suffit d'avaler quelque chose. Mais il y en a une autre qui est assez curieuse, qui est le comel. Alors, le comel, c'est une sorte de vol. On va vous prendre votre choulel, on va vous voler votre âme. Et la dernière, c'est terrifiant. C'est quelque chose qui est encore pire, parce que bon, le mot maya est peut-être un peu compliqué, mais c'est une sorte de captation de votre kal. Vous vous rappelez la différence entre le choulel, cette âme qu'on a tous,
et puis le kal, c'est l'énergie.
Alors, on va essayer de vous prendre petit à petit ce kal. Alors, bien sûr que c'est la troisième chose. En fait, quand on traduit le mot maya, ça veut dire la coupe de l'heure. C'est quelque chose de tragique. On a l'impression de voir la faux de la mort se mettre devant vous. Comme ça. On coupe carrément le temps. On enlève un morceau d'heure. Hein. C'est-à-dire qu'on vous enlève la possibilité d'exister. Alors ça, c'est terriblement craint, parce que lorsqu'un sorcier arrive à couper l'heure, ben, on commence à s'affaiblir, on s'évanouit fréquemment, on se sent dans un état de fatigue continuel, on ne peut plus travailler, la nuit on a des insomnies, et puis ensuite lorsqu'on trouve le sommeil, on a des cauchemars absolument épouvantables, et puis l'appétit disparaît, on ne peut plus manger, on commence à avoir des nausées, et puis on commence à enfler, tout devient douloureux, on dépérit de jour en jour, on succombe au bout de quelques mois, on est complètement vidé de son essence vitale. C'est dramatique et c'est comme ça que ça se passe vraiment chez les Mayas.
on a vu les maléfices, on a vu les mauvais sorts. Expliquez-moi, montrez-moi un peu la cérémonie d'ensorcellement, Maurice.
Carrément, là, vous voulez la recette juste avant midi.
La totale.
Mm-hmm. En l'occurrence, si j'étais Tibal, sorcier, eh bien d'abord, je choisirais un lieu. Bon, ça peut être n'importe où, en fait, mais... j'irais peut-être pour des raisons de sécurité personnelle en dehors de chez moi. Je pourrais le réaliser surtout la nuit. Ça, c'est surtout la nuit que ça se passe, dans un lieu désert, dans les bois, dans la montagne, ou alors simplement vraiment à mon domicile, hein, dans ma petite hutte, là, dans mon coin.
Est-ce que le sorcier est seul ?
Oui, dans ces cas-là, il est seul. Mmh. C'est-à-dire, je vais disposer sur le sol des aiguilles de pin. Vous vous rappelez ces longues aiguilles de pin qu'on retrouve sur tous les arbres de la région. Il y a presque ça. Et je vais créer une sorte d'hôtel comme ça. Hein. Une sorte d'endroit un peu magique, et sur cet hôtel, je vais aligner trois rangées de cierges avec les couleurs de l'arc-en-ciel. On les achète comme ça au marché. On se méfie d'ailleurs quand on voit un sorcier qui achète toutes sortes de couleurs de bougies. Et je vais
les
allumer.
C'est la parano totale.
Ah oui, mais c'est la parano. Vous allez voir à quel point c'est prenant, parce que maintenant je vais rajouter un brûle-parfum, une sorte d'encensoir rempli de copales, et je vais commencer à invoquer les divinités. Alors je prends un témoin, je sais pas. Je peux imaginer des malheurs qui vont arriver. Je peux inviter ces divinités à considérer le côté un peu malin de l'ennemi, de la personne que je vais défendre. Je vais être un peu perfide. Je vais essayer d'infliger un châtiment au coupable, et je vais l'imaginer pour qu'il le mérite vraiment. Et puis, je voudrais surtout que... Comment est-ce qu'on peut dire ? J'aimerais carrément que son cerveau brûle. C'est vraiment l'idée. Comme les cierges se consument, je veux que le cerveau de celui que je veux attaquer brûle véritablement. Je veux que son cœur se fonde carrément dans la fumée du copal qui monte. Vous sentez cette odeur forte. Les cierges et le copal se consument normalement. La prière va être entendue. Et le sorcier... Alors je prends carrément la scie. Hein. Tout ce qui reste, je vais prendre les cendres, je vais réunir les aiguilles, et puis je vais enterrer tout cela avec une touffe de cheveux de mon ennemi ou de l'ennemi qui a été désigné par celui qui est venu me voir. Je vais prendre encore quelques rognures d'ongles. Il faut savoir que tous les indigènes se font enterrer avec leurs rognures d'ongles. On ne se coupe pas les ongles n'importe où, n'importe comment. On garde tout, ça fait partie de votre corps. On va prendre des lambeaux de vêtements de la victime. Et puis, il n'y aura plus qu'à attendre les effets.
Donc ça, c'est tous les ingrédients. C'est tous les ingrédients.
Une vraie cuisine. Et cette cuisine fonctionne parce que je vous dirais que la sorcellerie aujourd'hui, c'est vraiment le mécanisme par excellence qui a véritablement le contrôle de toute la société des Indiens d'aujourd'hui. Alors quand on s'écarte de la tradition, lorsqu'on, je sais pas, par exemple, on aimerait avoir un niveau de vie supérieur ou vivre d'un mode un peu différent, on est carrément neutralisé par ce système. Vous comprenez à quel point il y a quelque chose de sclérosant.
Oui, complètement.
Et c'est intéressant parce que ça permet
c'est
aussi...
C'est pire que Big Brother.
Ça empêche en l'occurrence l'introduction de tout élément nouveau. La nouveauté est impossible, le côté étranger par exemple est impossible. Alors c'est vraiment un système de défense contre tous les changements qui pourraient intervenir dans une communauté. Alors on a l'impression que ces gens-là restent statiques comme ça depuis des siècles. Et c'est là qu'on commence à comprendre pourquoi ils refusent notre monde, notre système, notre fonction, notre commerce.
Donc actuellement ça se passe toujours comme
Alors là je vous donne la vérité d'aujourd'hui. Hein. Le sorcier là il a quelques minutes, il continue à fonctionner, la nuit prochaine il va faire le même travail pour quelqu'un. Alors quand on voit dépérir son troupeau, quand on voit ses champs qui commencent à flétrir, quand on, je sais pas, votre femme, les enfants tombent malades, on sait qu'on est ensorcelé, ça c'est sûr. Alors, on va rechercher dans sa mémoire le parent, le voisin, celui qui aurait pu avoir un petit problème avec nous, on va commencer à soupçonner, je sais pas, il y a quelqu'un qui est en train de vous couper votre heure. Ça c'est vraiment le...
Donc en fait, c'est une tierce personne qui va voir le sorcier pour que le sorcier...
Joue sur quelqu'un d'autre. Alors, si les bêtes continuent à mourir...
Question bête, est-ce que le sorcier est payé pour ça ?
Bien sûr, c'est-à-dire qu'il va recevoir des offrandes, il va... Bon, ça se fera très en secret, mais il va effectivement pouvoir s'enrichir. C'est un pouvoir comme un autre, c'est un revenu comme un autre. Mais en l'occurrence, quand vous avez, je sais pas, votre maïs ou haricots qui ne m'ont plus, les membres de la famille qui continuent à être malades et toujours pires, obligatoirement, on va chercher à supprimer le sorcier présumé. On va chercher véritablement à lever le maléfice dont on se croit victime. Alors, moi, je vous donne presque en conclusion un cas qui a été vécu et que j'ai croisé par ethnographe interposé, parce que quand on nous raconte une histoire comme ça, là, vous êtes, Bah, il fait nuit. Hein. Vous avez le bruit des animaux, vous avez cette ambiance étrange. C'est une terre quand même assez aride, en même temps qu'il y a un peu des petits champs partout, mais il y a une vie sauvage encore assez intense, même si on est à plus de 2000 mètres d'altitude. Bah, c'est une aventure qui s'est passée autour d'une femme qui s'appelait Dominga Hernandez, et elle habitait dans un tout petit village, une toute petite communauté qui s'appelle Las Hoyas, c'est-à-dire les Jars. Et elle avait une toute petite maison isolée, parce qu'ils sont souvent isolés, hein, ils sont souvent perdus comme ça. Je donnais l'image, vous vous rappelez des grains de maïs qu'on lance comme ça dans le vent et qui tombent n'importe où dans la campagne et dans les forêts. Eh bien, elle avait été mariée, elle n'avait pas donné d'enfant en fait à son mari, et elle avait été abandonnée après quelques années de vie commune. Ça arrive assez fréquemment chez les Indiens, on peut divorcer, on peut abandonner quelqu'un sans trop de problèmes. Et puis elle avait quelque chose comme, qu'est-ce qu'elle pouvait avoir, 70 ans peut-être, elle vivait seule, elle cultivait juste un tout petit jardinet, elle vendait des pièces de vaisselle, c'est-à-dire d'argile, comme ça qu'elle travaillait, elle faisait des encensoirs, des objets que les Chamoulas vendent volontiers au marché ou à l'extérieur, elle les fabriquait elle-même devant sa maison, elle les cuisait carrément devant sa maison. Et puis il y avait deux de ses neveux qui habitaient dans le même petit endroit, comme ça, juste un peu en dehors de... C'est même pas un hameau, c'est quelques huttes comme ça. Elle les voyait plus, elle visitait de temps à autre le marché, mais elle ne voyait personne dans le cadre de sa famille. Et puis, elle se limitait à des relations vraiment plus minimales que ça. C'est étrange pour un Indien, parce qu'il y a des exigences, il y a quand même des convenances. Et elle n'en tenait plus tellement compte. Et un jour, ses voisines se sont aperçues tout simplement que Dominga avait disparu. Plus de Dominga, la hutte était abandonnée le matin à 4 heures lorsqu'on entendait le bruit des tortillas, que le feu était allumé. Non, il n'y avait plus de fumée à travers le chaume de la hutte. La porte de la maison, il n'y en a quand même une parce qu'il fait assez froid, hein. La température peut descendre très bas. Il n'y a qu'une porte, il n'y a pas de fenêtre. Ben, cette porte était grande ouverte et il y avait une sorte de désordre, hein, incroyable à l'intérieur. Et le môle de la Soyas, donc le vieillard, hein, vous vous rappelez que les vieillards contrôlent tout, il a été averti, on va mobiliser toute la population du hameau, on va aller voir dans les bois à côté, on essaie de trouver la trace de Dominga. Ben, personne n'a jamais su où elle était passée, et en cours d'une battue, c'est un certain, bon, j'avais relevé son nom, il s'appelle Domingo Gomez, et on avait trouvé qu'il était un peu bizarre, il avait une façon un peu suspecte de se comporter. Il a été interrogé par le vieillard et il a reconnu avoir tué Dominga. Et il a dénoncé, enfin, il va dénoncer ses complices. Il y avait Lorenzo, ça je m'en rappelle. Il y avait un certain Pascual Hernandez. C'était les neveux de la victime. Et là, eh bien, elle était morte. On le savait maintenant. On n'avait pas retrouvé son corps. Mais vous allez voir la suite de l'histoire.
In my life and time, my life and time, I sung a lot of songs, I've made some bad rhymes, I've acted out my life in stages with 10,000 people watching, but we're alone and I'm just singing this song for you. I know your image of me is what I hope to be, babe. I treated you unkindly, but girl, can't you see? There's no one more important to me, so darling, can't you please see through me? 'Cause we're alone now and I'm singing my song for you. You taught me precious secrets of the truth withholding nothing. You came out in front and I was hiding. But now I'm so much better, so if my words don't come together, listen to the melody, 'cause my love's in there. I love you in a place where there's no space or time.
love you for my life, 'cause you're a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together, we were alone and I was singing my song.
Frédéric, vous vous rappelez comment s'appelle l'assassin ?
Gomez.
Il s'appelle Gomez. Domingo Gomez. Je pourrais même vous donner son nom de double.
Pratiquement le mien. Hein,
Domingo Coquis. Mmh. Mmh. Domingo Gomez Coquis. Eh bien, 2 ans après ce drame et la découverte des complices, les enfants de Domingo sont tombés malades.
En fait, toute la famille est décimée.
Attendez, donc on en est qu'au début, là. Il y a juste Dominga, pour l'instant, qui est morte.
On anticipe.
Oui, mais les Ilols, il y en a eu un spécialement qui était consulté, il est venu voir les jeunes enfants, et il a dit immédiatement qu'ils avaient été ensorcelés et que, malheureusement, le sorcier qui avait envoyé la maladie était beaucoup trop puissant pour lui et qu'il était complètement incapable de le combattre, en fait, d'avoir une certaine efficacité contre cette maladie. Mmh. Alors, les deux enfants vont mourir, ça c'est normal. Et l'année suivante, c'est le père et la mère de Domingo qui vont tomber gravement malades. Alors là, cette fois, l'Ilol, il va aller voir les patients. Il va prendre leur pouls et après quelques minutes d'observation, là, en écoutant vraiment, en sentant ce pouls, eh bien, il va dire d'un seul coup, comme ça, une sorte de cri de reconnaissance, c'est Dominga qui a jeté un sort à toute la famille. C'est celle qui a été assassinée. Et c'est ce qu'il va dire à Domingo, qui lui était l'assassin, mais qui est toujours vivant. Et quelques mois plus tard, la femme de Domingo est morte. Domingo a commencé à ressentir des symptômes un peu étranges. Et...
Donc en fait, aucun remède à cela.
Non, quand le sorcier ne peut pas, j'entends le guérisseur, pardon, il ne faut pas les confondre, ne peut rien faire, quand l'Ilol ne peut rien faire, souvent il abandonne même. Hein. Je vous ai dit que souvent, il est capable de nous dire, même... ça c'est une chose incurable, je ne peux rien faire. Il se défend lui-même parce qu'il peut être assassiné pour avoir raté son coup. Et petit à petit, toute la famille va être emportée, vous aviez raison. Mais c'est alors qu'on va se rendre chez... Vous vous rappelez de Pascal et de Lorenzo, c'est-à-dire les deux complices. Et la femme de Pascal était déjà à l'agonie. Et on va voir qu'un des enfants de Lorenzo était fiévreux. Domingo va leur faire part de cette idée que Lilol avait jetée, c'est-à-dire votre tante, hein, puisqu'ils étaient cousins, c'est vraiment une sorcière. Et il faut la tuer avant qu'elle nous tue tous. Hein. Et ça, c'est quelque chose de dramatique, puisque Lorenzo va refuser de s'associer au meurtre, mais finalement, comme l'état de son fils commence à empirer, il accepte de se joindre à Pascal et à Domingo. Et les trois hommes vont se rencontrer un soir chez Domingo. On va attendre la nuit, on va boire de l'eau de vie. Et aux alentours, je ne sais pas, de quelque chose comme 11h, minuit, ils vont se diriger silencieusement vers la maison de la victime. Je vous ai dit, elle était ouverte. Et Domingo dormait, enfin Dominga, pardon, cette femme qui vivait seule dormait. Et ça, c'est un moment qui a dû être terrible parce que j'ai eu la description de quelqu'un qui a entendu cette histoire, parce que plusieurs en ont déjà parlé et puis c'est quelque chose qui se raconte. eh bien, ils vont rentrer à l'intérieur de la maison, ils vont passer une corde autour du cou de cette femme, ils vont la traîner sur plusieurs mètres, ils vont la sortir dans la cour comme ça, de façon violente, et pendant ce temps, eh bien, Pascal et Lorenzo, les complices qui vont ensuite être accusés du meurtre de Dominga, étaient déjà en train de creuser un trou derrière la maison pour ensevelir le corps. C'est une forme de conclusion, mais ça vous montre à quel point il existe encore aujourd'hui des recensements qu'on fait à Chamula ou dans les différents villages mayas. On est toujours étonné de voir à quel point chez les Chamula, un grand nombre d'homicides ont pour objet le fait de simplement lever le sort, hein, enlever ce sort, et qu'on a jeté sur un meurtrier ou sur sa famille. C'est des chiffres qui sont assez impressionnants, puisque, je sais pas, là, en quelques mois, on peut dénombrer à Chamula 19 assassinats qui ne sont pas normaux, 19 morts anormales. Mmh. Maladie, mort naturelle. Chez les Chamula, on ne connaît pas. Et l'histoire de Dominga est suffisamment forte pour montrer à quel point la pression sociale, à la fois des guérisseurs et des sorciers, existe encore aujourd'hui chez les Mayas du Mexique.